France Culture.
À voix nue. Aujourd'hui, Mario Vargas Llosa s'entretient avec Gérard de Cortanze. Cinquième entretien.
Dans leur livre, Louis Arce et Barbara Doman vous présentent Mario Vargas Llosa comme hésitant entre un déterminisme démodé, c'est leur expression, et un situationnisme sartrien. Vous rectifiez leurs impressions en précisant que vous êtes parti du va-et-vient idéologique et de la dialectique de Sartre pour aboutir au réformisme de Camus. Alors, où en êtes-vous aujourd'hui dans ce va-et-vient Sartre-Camus
Je suis beaucoup plus près de Camus que de Sartre, oui, sans doute. J'étais sartrien jusqu'à la moitié des années 60. À partir de lors, j'ai commencé à prendre des distances avec Sartre. Je me souviens très bien l'impression négative qu'il m'a fait en interview que Sartre avait donnée dans Le Monde, où elle disait... Devant des enfants qui meurent de faim, la nausée ne fait pas les poids. Ça m'a fait une impression énorme de lire ces phrases-là dans la bouche de quelqu'un qui nous avait enfin convaincu que la littérature pouvait changer le monde. Cette espèce de confession d'impotence devant la réalité historique, hein, d'impuissance. Hein, cette confession d'impuissance devant la réalité historique. Hein, par les pères de l'engagement, était quelque chose à vous surprendre. Mais j'étais aussi déjà assez déçu par le confucianisme politique de Sartre. Il avait soutenu les positions politiques les plus contradictoires, en donnant toujours des arguments qui étaient tellement convaincants, parce qu'il était un grand... penseur, mais il était aussi un grand sophiste, n'est-ce pas? Il pouvait démontrer tout. Il avait cette capacité décrite par Kestler, hein, la capacité de démontrer tout ce qu'il croit et de croire tout ce qu'il peut démontrer. Hein. C'est une capacité un peu diabolique. Hein. Et à Sartre, il a permis de soutenir les positions les plus contradictoires. Alors, j'avais pris des distances, disons, politiques, idéologiques, mais à partir de lors, j'ai commencé à prendre aussi des distances littéraires. J'ai découvert qu'il n'était pas si grand écrivain que je croyais. J'ai découvert que je n'aurais pas pu relire ses romans, par exemple. Et par contre, en même temps, j'ai commencé à réévaluer Camus, à qui j'avais un peu marginalisé par influence de Sartre. J'ai découvert pas seulement la qualité littéraire, la beauté hein, de la prose de Camus, mais aussi l'importance extraordinaire de l'attitude politique de Camus qui s'est refusé à différencier l'idéologie et la morale. Hein. L'importance que Camus a donnée à la morale, dans l'idéologie, dans la vie politique, c'est quelque chose qui, à partir de la moitié des années 60, hein, pour moi, est devenu très important. Alors, j'ai relu Camus, et pour moi, cela signifie aussi une réévaluation de la culture démocratique, de la démocratie, en même temps que j'ai rejeté les socialismes, les collectivismes, toute forme de totalitarisme et d'autoritarisme, j'ai commencé une réévaluation qui a été lente mais systématique de la culture démocratiques, de ce qu'on appelait enfin les libertés formelles. J'ai découvert l'importance des libertés formelles et en tout ça, Camus m'a beaucoup aidé.
Vous seriez d'accord aujourd'hui avec Camus lorsqu'il disait qu'il y avait un temps pour vivre et un temps pour témoigner de vivre?
Je ne me souvenais pas de cette phrase-là, mais il me paraît un peu artificiel. Si cela veut dire que témoigner, c'est-à-dire écrire, n'est pas vivre, cela ne me paraît pas tout à fait exact. Écrire, c'est une façon de vivre, c'est une façon aussi très, même très riche et très intense de vivre. Alors je ne ferai pas cette différence-là. Et ça m'étonne dans la bouche de Camus, parce que Camus aimait énormément la vie, n'est-ce pas? C'est un des beautés qui a l'œuvre de Camus. L'œuvre de Camus est plein d'amour pour ce qu'il y a de beau dans l'existence, dans les paysages, dans les corps humains, dans les plaisirs. Ce qui n'existait pas, par exemple, dans l'œuvre de Sartre. Il paraît que Sartre, c'était un jouisseur dans la vie réelle, mais dans sa littérature, ça n'existe pas. Dans sa littérature, il n'y a pas d'humour. Les plaisirs sont réprimés, sont présentés dans ses versions les plus dégradées, plutôt. Hein. Pas du tout dans l'œuvre de Camus. Dans l'œuvre de Camus, la joie de vivre, et même les textes les plus pessimistes de Camus.
Vous avez résidé un certain temps à Berlin. Magris, Claudio Magris, me faisait récemment remarquer que, d'après lui, on avait salué la chute du communisme avec une certaine légèreté. Car il a laissé, disait-il, un grand héritage, non dans les réponses qu'il a données, mais dans les questions qu'il a posées. Il faut sauver non pas le Dieu, mais la force morale qui avait nourri la foi en ce Dieu. Vous êtes d'accord avec cette analyse?
Non, je ne suis pas d'accord. Je crois que le communisme a été une tragédie terrible pour l'humanité. Que dans le balance, ce qu'a laissé le communisme, ce sont des millions et millions de cadavres qui ont été sacrifiés de la façon la plus cynique et ignoble au nom d'une idéologie qui, à la fin, était une idéologie qui servait seulement pour justifier un pouvoir absolu pour une minorité très exclusive, n'est-ce pas? Et que tous les grands idéaux, n'est-ce pas, qui ont permis au communisme de s'enraciner dans des larges sections enfin de l'humanité, n'ont jamais été incarnés par une société communiste. Pas un seul de ces idéaux. La vérité, c'est que cette médiocre démocratie, n'est-ce pas, a été capable de réaliser, au moins partiellement, la plupart des idéaux du socialisme et du communisme. Et pour ça, je crois qu'il faut célébrer comme une victoire très importante de l'esprit humain, de la civilisation humaine, la chute du communisme. Cela ne veut pas dire que cette démocratie qui a gagné une guerre sans lutter, hein, parce que ce n'est pas la démocratie qui a mis en défaite le communisme, c'est la décomposition interne du communisme qui a permis sa chute, soit un système parfait, c'est un système très imparfait, et surtout dans les sociétés les plus démocratiques, c'est-à-dire avec une tradition démocratique plus riche, on voit ces imperfections aujourd'hui jouer un rôle qui est très inquiétant pour l'avenir. Le manque de participation, le cynisme, cette espèce de aboulie hein, qui a gagner, n'est-ce pas, la jeunesse vis-à-vis des idéaux politiques. Oui, ça, ce sont des problèmes très, très sérieux qui a la culture de la liberté, la culture démocratique, et doit être attaquée. Il faut chercher des solutions pour eux. Mais la défaite du communisme a signifié, malgré tous les problèmes qui vivent ces populations, hein, je crois, un progrès considérable pour tous les pays de l'ancienne Union soviétique.
Vous faites, dans votre roman « La ville et les chiens », de la violence, un caractère dominant à la fois du monde de l'adolescence, mais plus généralement peut-être de la société humaine tout entière. Est-ce que vous pensez que la violence est une fatalité ?
C'est une réalité. Je crois que la violence fait partie des rapports humains et de la condition humaine. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas essayer de la réduire, de la contenir. Mais je crois qu'il faut reconnaître que la violence est là. Et quoi que pour moi est encore pire, c'est qu'il y a dans la nature humaine une certaine propension, hein, une certaine tendance à la violence. Je crois que c'est pour ça qu'il faut trouver une manière de canaliser cette violence de telle façon qu'elle ne soit pas destructive, mais plutôt créative, qu'elle contribue, n'est-ce pas, au progrès humain au lieu de la destruction humaine. Et pour moi, ça, je l'ai appris en lisant Georges Bataille, un écrivain que j'ai commencé à lire à partir des années 70 avec beaucoup d'enthousiasme. C'est pour ça que je crois que la littérature, l'art, est un des véhicules à travers lesquels la violence humaine peut être exprimée, assoiffée et canalisée d'une façon plutôt productive pour la société. Cette idée des batailles, que la littérature, elle est mal, qu'à travers la littérature trouve un droit de cité. Tout ce que la cité est obligée de réprimer pour faire la vie en cohabitation possible, mais par une idée très convaincante. C'est pour ça que parfois les livres sont comme des explosives, hein, et quoique ils gardent une violence que nous ne pourrions pas tolérés dans la vie réelle, nous sommes fascinés et nous admirons et nous jouissons avec ces images-là de la littérature. Je crois que c'est une manière, n'est-ce pas, de brûler cette violence qui est en nous d'une façon qui n'est pas destructive, qui ne fait pas les ravages qu'elle fait, par exemple, quand elle trouve la sortie de l'idéologie, ou quand elle se manifeste dans la vie sociale et politique.
Alors justement, si on reste un peu sur la vie sociale et politique, lorsque vous avez créé le mouvement Libertà, est-ce que c'était pour lutter contre le dogmatisme, contre l'injustice, contre toute cette violence qui existait au Pérou ?
Oui, c'est-à-dire que ce mouvement a été créé pour canaliser la participation des indépendants, disons, dans ce projet, qui était un projet démocratique et libéral, n'est-ce pas, pour changer pacifiquement la société péruvienne. C'est un projet qui a échoué, comme vous savez, et malheureusement, le final a été assez triste parce que ça a été encore une dictature dans l'histoire péruvienne. C'est ce que nous avons maintenant. Mais comme projet a été assez, enfin, ambitieux et je crois que je peux le dire généreux. Nous avons essayé, moi et plusieurs Péruviens, d'utiliser tout ce que la modernité offre à un pays pour vaincre le sous-développement, la pauvreté, la misère, et s'accroître et participer, n'est-ce pas, de toutes les énormes possibilités de la modernité. C'était ça le projet. Et un projet qui, heureusement, dans d'autres pays de l'Amérique latine, devient petit à petit une réalité. Non?
En vous écoutant, je pense à Jorge Samprun, l'Espagnol, qui vient de publier Federico Sanchez vous salue bien, qui relate son expérience de ministre. Et il y a dans ce livre une phrase qui devrait vous faire réagir. Au fond, il dit « Je n'ai rien appris d'essentiel en faisant cette politique ». Rien sur le pouvoir en tout cas, rien que je n'eusse pas déjà appris dans les livres. Alors, vous, votre expérience politique, est-ce que vous pourriez au fond la rapprocher de celle de Samprun, c'est-à-dire au fond, tout ce que j'ai pu apprendre, notamment sur le pouvoir, je le savais déjà dans les livres, dans Machiavel, dans Montesquieu, dans Tocqueville
Pas exactement. Moi, je ne dirais pas la même chose. J'y savais beaucoup de choses que j'ai apprises. En faisant de la politique. Mais j'ai appris d'autres choses aussi. Hein. J'ai appris à mesurer surtout la distance qu'il y a entre la politique des intellectuels, c'est-à-dire la politique telle comme l'a fait Dan Estudio, n'est-ce pas, en se posant la politique comme un problème intellectuel, comme l'exercice de la critique, comme la discussion enfin, d'idées. Et la politique au jour le jour, cette politique qui est la lutte pour le pouvoir, pour arriver au pouvoir, pour maintenir le pouvoir. Et il y a une distance qui est une distance, parfois un abîme, n'est-ce pas, entre ces deux sortes de politiques. D'autre part, je crois que pour un intellectuel qui travaille isolé, qui... La politique le met en présence, n'est-ce pas, de cet mouvement humain, hein, les masses, qui est quelque chose qui pour un écrivain est totalement inconnu. Hein. Ça n'existe pas dans la solitude de l'écriture, de l'imagination.
Vous pensez que ça a changé quelque chose dans votre vie, dans votre vie d'écrivain?
Ça, je ne le sais pas. Comme écrivain, ça, je ne sais pas. Je crois que quand j'écris, j'essaye d'écrire avec la totalité de ma personnalité. Mais je crois que cette expérience m'a changé en beaucoup de choses. Hein. Maintenant, je crois que je suis plus sensible aux limitations de la politique et aussi à la valeur de ces rares politiciens qui sont capables, dans une activité tellement déformatrice, de maintenir des convictions, d'agir mu par des idées et des valeurs, et qui sont capables, n'est-ce pas, en même temps, sans se trahir, sans trahir ses idiots, des faire l'histoire changer et évoluer. Hein. Bien sûr, j'ai appris à mépriser à beaucoup de politiciens depuis que je connais la politique du dedans, mais aussi à respecter plus et admirer plus les politiciens qui méritent d'être admirés et respectés. Hein.
Vous pensez que la démocratie constitue une protection suffisante contre la barbarie?
Je crois que la démocratie est toujours très fragile. C'est une pellicule très très fragile qui peut craquer rapidement, même dans des sociétés où la démocratie a une très ancienne tradition et où les institutions démocratiques paraissent inébranlables. Ça c'est faux. Il ne faut pas croire que la démocratie est invulnérable, n'est-ce pas, à la barbarie. La barbarie est là. La démocratie est une anomalie dans l'histoire humaine. Il faut se souvenir toujours de ça. La démocratie est une anomalie. La liberté est une anomalie. L'individu est une anomalie. Ce qui est permanent dans l'histoire humaine, c'est la barbarie, c'est la brutalité, c'est l'esprit de la tribu, n'est-ce pas? Et c'est pas l'individu, hein, c'est la masse, hein, c'est la collectivité. Hein. La démocratie est une exception précieuse, mais c'est une erreur de croire qu'elle est là quand on la attend pour toujours. Elle peut crouler, et il y a tellement d'exemples, n'est-ce pas? Nous voyons tellement d'exemples. Et parfois, elle n'écroule pas complètement, hein, elle ne disparaît pas complètement, mais elle se dégrade, elle se corrompt, elle s'appauvrit, elle se mécanise. Et ça, c'est un problème que je crois vive, surtout les démocraties européennes, les démocraties plus développées. Ce sont des pays où la démocratie s'est appauvrie considérablement. La corruption a fait des ravages, le manque de participation est un facteur d'appauvrissement extraordinaire de la démocratie. Et paradoxalement, si vous voulez voir la démocratie dans sa face plus jeune et vivace et fraîche, il faut aller au pays où la démocratie est une expérience toute nouvelle, où la démocratie commence, n'est-ce pas, à fonctionner. Il faut aller dans les pays de l'Europe centrale, par exemple. Là, on voit comment la démocratie, quoique les problèmes sont énormes, a une vigueur, n'est-ce pas? Et il y a une participation. Hein. C'est le cas de l'Amérique latine. Si vous voyez maintenant les pays qui ont atteint la démocratie, finalement, hein, vous voyez une espèce de vivacité, de vitalité de la démocratie que malheureusement, elle paraît avoir perdu dans les démocraties plus anciennes.
Oui, il y a un fait, je trouve, qu'on ne rappelle pas assez souvent, c'est que, au fond, l'Allemagne, avant d'être nazie, était une des civilisations les plus cultivées, les plus avancées d'Europe.
Sans doute, la République de Weimar était une république très civilisée, hein, qui a été détruite, hein, pas seulement par les nazis, mais aussi parce qu'il n'y a pas eu, n'est-ce pas, cette conviction de que la démocratie devait être défendue, qu'elle n'était pas garantie pour toujours. Hein. Et ça, c'est un exemple qu'on oublie parfois, même dans des pays qui ont déjà souffert l'expérience de l'autoritarisme et du totalitarisme.
En guise de conclusion provisoire à ces entretiens, je voudrais qu'on revienne malgré tout à la littérature. Votre œuvre suggère que la fiction romanesque n'est pas le fait des cultures religieuses, mais plutôt des sociétés en crise, fragmentées, incertaines, vous dites, où il est nécessaire de croire en quelque chose. Alors, au fond, n'est-ce pas l'imagination qui permet à l'homme, de vivre l'abîme qui sépare la réalité telle qu'elle est de son appétit de fiction?
Sans doute. Je crois que sans l'imagination, jamais on n'aurait arrivé où nous sommes maintenant. Hein. C'est-à-dire que la civilisation humaine jamais aurait évolué jusqu'à ce qu'elle est aujourd'hui. Il y a bien sûr des pessimistes qui disent que ce qu'on a atteint, c'est pas tellement bon, n'est-ce pas? Moi, quoique je ne suis pas un optimiste professionnel, je ne partage pas ce point de vue. Je crois qu'avec toutes ces limitations et avec toutes ces erreurs, la civilisation moderne permet à beaucoup plus de gens que nulle autre civilisation dans l'histoire d'atteindre des vies décentes et de réaliser au moins partiellement ses ambitions. Hein. Ça, c'est aussi une expérience tout à fait nouvelle dans la civilisation humaine. Jusqu'à très récemment, dans la presque totalité des pays, seulement une toute petite minorité était capable de réaliser cet idéal. Hein. Et la plupart des êtres humains étaient condamnés par l'effet des naissances, n'est-ce pas, à souffrir, à être exploité, à vivre d'une façon inhumaine et ignoble. Hein. Je crois que la civilisation moderne a quand même élargi d'une façon extraordinaire la possibilité de l'humanité pour les êtres humains.
Et vous pensez que la littérature peut être considérée comme un instrument de connaissance ?
Aussi. Je crois que la littérature est aussi un instrument de connaissance. Un instrument de connaissance d'un domaine qui est très secret de l'expérience humaine. C'est les domaines des désirs, des rêves, cette existence secrète qui est celle de la fantaisie. Hein. Ce n'est pas l'existence réelle, celle que nous apprenons à connaître à travers la littérature, mais cette existence secrète que l'existence réelle fait désirer ou rejeter. Et dans ce sens, oui, la littérature nous permet de connaître cette dimension, n'est-ce pas, de l'expérience humaine qui jamais peut être décrite pour une science objective. Parce que toutes les sciences objectives commencent par éliminer ce qui est le domaine privilégié de la littérature, la subjectivité, la vie de l'imagination et de la mente. Non ?
Mario Vargas Llosa s'entretenait avec Gérard de Cortanze, réalisation Jeannou Castel.